À la bourse multicollection organisée samedi à la salle Coppelia de la Flèche par l'association Kyriel, j'ai rencontré le circinusophile René Verstreit. Il nous explique sa passion pour les compas.
Je collectionne les compas depuis 1987, ça fait 25 ans. J'ai commencé par acheter une boîte, puis deux boîtes, puis 10 boîtes, puis 50 boîtes. Et quand je suis arrivé à ce montant de boîtes, ce nombre de boîtes, je me suis mis à acheter des compas droits, tout simples. Et puis avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait des compas d'épaisseur, des compas d'intérieur, des compas de chapelier, des compas de maréchaux ferrants, de forestiers, d'obstétriciens, de dentistes, etc., etc. Ce qui fait qu'actuellement, j'ai plus de 1100 compas à la maison.
Cette passion vous a permis de découvrir aussi de nombreux métiers?
Oui, l'intérêt d'une collection, c'est d'abord de collecter et de sauvegarder. Sauvegarder et remettre en état, parce que bien souvent, les compas que j'achète sont issus de greniers ou de caves et sont très, très abîmés. Donc il faut les mettre en état avec beaucoup de douceur et pas d'une manière mécanique, donc avec la main et de la laine d'acier. Un compas est intéressant par sa forme, par son matériau qu'il a constitué, mais aussi par l'usage qu'on en a fait. Et le compas est l'un des instruments sans doute qui montre l'immense inventivité de l'homme, puisqu'il y a des compas qui ne sont utilisés que pour un seul métier. Je pense par exemple au forestier qui a un compas qui va permettre de mesurer le diamètre et la circonférence d'un arbre. Je pense au compas du chapelier qui va permettre au chapelier ou à la modiste qui va permettre de mesurer l'intérieur d'un chapeau lorsqu'il aura été confectionné. Le compas de prothèse dentaire qui va permettre de mesurer une couronne. Ce sont des compas qui sont utilisés par un seul métier. Mais à côté de ça, il y a des compas qui sont utilisés par des menuisiers, par des ébénistes, par des ferronniers, par des ajusteurs. Ce sont des compas droits, des compas simples, hein, qu'on appelle aussi compas d'établi ou d'artisan. Et puis il y a des compas d'épaisseur qui vont être utilisé aussi par des gens qui travaillent dans la tôlerie, dans le tournage du bois, qui vont être utilisés aussi pour mesurer l'intérieur de pièces, hein, ou par les potiers. Hein. La différence près, c'est que métier du fer, compas en fer, métier de la terre et métier du bois, bien souvent des compas en bois.
Et à chaque fois, il faut pour les compas en bois, il faut des bois qui ne bougent pas dans le temps.
Voilà, il faut des bois effectivement qui soient stables, comme le buis par exemple, qui est utilisé par le potier. Le bois est un bois qui ne souffre pas de l'humidité. On trouve aussi des compas en frêne ou en bois en merisier, hein, qui sont des bois solides, en noyer. Il y a des bois qui sont des bois plus fragiles, comme le sapin, par exemple. Ce sont des bois qui sont tendres et qui sont très vite attaqués par les insectes et qui ne sont pas traités. Donc les compas durables sont des compas effectivement en bois. Durables sont des compas de bois, je voudrais dire, d'une certaine noblesse.
Chaque artisan pouvait personnaliser son compas?
Oui, alors le compas est attachant pour cela, que ce soit des boîtes ou des compas d'artisans. On retrouve assez fréquemment des boîtes du début 20e siècle ou de la fin 19e, où on retrouve dessus le nom de trois générations. Hein, on va trouver le même nom de famille, mais avec trois prénoms différents. Le compas est un instrument fidèle, et un instrument fiable. Fidèle et fiable parce qu'il va reporter une cote d'une manière identique des multiples fois. Et c'est sans doute ces deux qualités qui sont rares chez l'homme et qui sont recherchées chez l'homme, la fiabilité et la fiabilité, ont amené sans doute les compagnons, non seulement les compagnons au sens Tour de France ou du Devoir, mais aussi les artisans à faire en sorte de personnaliser leur compas ou par leurs initiales, ou par leur nom, ou par des signes de reconnaissance. Ce qui permettait aussi d'attester que tel compas qui avait été utilisé par quelqu'un d'autre était bien son propriétaire, puisque son nom et ses initiales étaient mises dessus.
Et d'après vous, d'après vos connaissances, les premiers compas sont arrivés quand?
Alors, la trace la plus ancienne du compas remonte à Babylone. En Babylone, on est bien avant les temples égyptiens, même si on a retrouvé des tablettes d'argile dans la vallée du Nil qui montrent le compas, l'utilisation du compas pour les pyramides. Mais les premiers compas, donc traces écrites en tout cas, sont des compas qu'on a retrouvés à Babylone, notamment qui étaient utilisés pour tracer les assises des ziggourats, qui étaient en fait les temples tours, plus connus sous le nom de tour de Babel. Hein. Mais on a aussi une origine romaine, puisque non seulement des compas ont été retrouvés à Pompéi, qui a été enfoui sous la cendre en l'an 79, mais à Pompéi aussi, dans la Rome antique, on a un verbe latin qui est le verbe compacere, C-O-M-P-A-2-S-E-R-E. E-R-E-R, qui veut dire mesurer avec ses jambes. Et je pense que le premier compas, le plus ancien, eh bien, remonte à l'homme, c'est ses deux jambes.
Et certains compas, justement, font référence à l'homme ou à la femme
Oui, alors, il y a des compas que j'appelle coquins, que nous appelons coquins, parce que ce sont des compas, je pense à ce petit compas qu'on appelle maître à danser, parce qu'il a deux jambes féminines et deux bras, il manque la tête pour refaire un personnage féminin, mais avec donc sur les jambes, j'ai vu un petit compas sur lequel son concepteur avait gravé des petites chaussines avec des boutons, des bas résilles, une jarretière, la culotte, hein, et j'en reste là, il y a des détails anatomiques qu'il faut mieux éviter de publier. Mais on a aussi des compas qui sont dotés de pointes qui ne servent pas du tout à mesurer, hein, qui sont plutôt des pointes qui servent à procréer.
Donc là, c'est à chaque fois une façon de personnaliser vraiment son compas
Oui, et puis c'est aussi, les compagnons suivaient leur formation, ils étaient reçus, puis ensuite il fallait qu'ils fassent leur tour de France pour être compagnons finis, remettre leur chef-d'œuvre et juger par les pairs pour déterminer s'ils étaient capables d'être compagnons finis. Et ils étaient souvent seuls, donc je rapprocherai d'ailleurs ces compas féminisés à certains ouvrages et réalisé par les poilus de 14-18 dans leur tranchée, qui faisaient aussi sur des douilles ou sur des morceaux de douille d'obus en laiton, des figurines un peu érotiques.
Alors si nos auditeurs veulent s'intéresser, comme vous, au compas, est-ce qu'il y a des livres de référence ou vous avez un site internet ?
Alors, des livres de référence, il y en a un, c'est pas de l'immodestie que de le dire, il y a un livre qui existe au monde sur les compas, c'est l'ouvrage qui s'appelle « L'esprit du compas, outil et symbole », qui a été écrit à quatre mains, puisqu'il a été écrit par Lionel Royer et par moi-même. Lionel Royer est un collectionneur de la région Tourangelle que j'ai découvert sur internet. Et puis nous avons un site aussi, un site internet qui s'appelle compas-passion.jimdo.com. La meilleure façon d'accéder à ce site, c'est de mettre compas passion et on y accède automatiquement. Il est ouvert, ce site, dès la première ligne de la page correspondante.
Et pour acheter les compas que vous collectionnez, comment faites-vous ?
Je vais évacuer tout de suite un double sens à votre question. Les compas que j'ai ne sont pas à vendre. Hein. Par contre, si on pouvait trouver encore assez facilement des compas dans des brocantes, dans des foires à tout, comme on dit, il y a 20, 25 ans, même 15 ans, ben aujourd'hui, des compas, il y a quelques collectionneurs qui sont des collectionneurs discrets. Lionel Royer et moi, on en connaît moins de 10 hein, sur l'ensemble de la France. Donc peu de collectionneurs visiblement, mais des collectionneurs qui sont originaires de l'étranger et on voit bien souvent partir des compas, donc, notamment aux États-Unis. Hein. Donc pour acheter des compas aujourd'hui, attention, hein, et le site attire justement l'attention des collectionneurs dans une rubrique qui s'appelle mise en garde, parce qu'on commence à trouver des compas sur internet qui sont des compas contemporains et qui sont vendus pour des compas anciens, hein, à des prix inadmissibles. Et puis attention aussi à ces compas qu'on retrouve sur des foires à la brocante, en 5-10 exemplaires à peu près identiques, avec des marques ésotériques qui n'en sont pas, qui sont en fait des compas qui ont été fabriqués récemment et qui, à partir du moment où il y a des collectionneurs et des personnes qui en recherchent, eh bien, on en fabrique des anciens. Une anecdote, hein, il m'est arrivé de me rendre au Maroc avec mon épouse et dans le souk de Marrakech, j'ai cherché des compas, j'en ai trouvé deux, mais des compas très simples, et il y a l'un des fabricants d'objets en métal dans le souk qui m'a demandé de lui envoyer des photos pour fabriquer. Donc ça veut dire qu'on peut trouver des compas, des faux anciens, et quand on le sait que c'est à un prix abordable, pourquoi pas, mais quand on vend ça à des prix de compas véritablement anciens, à plusieurs centaines d'euros, ça pose des problèmes, y compris des problèmes moraux.
René Versreit, circinusophile ou collectionneur de compas, nous dévoilait sa passion. Vous pouvez découvrir l'univers du compas grâce au livre intitulé « L'esprit du compas » aux éditions La Part du Beau, ou sur le site internet compas-passion.jimdo.com.